Actu SF, les podcasts.
Bonjour. Alors, comme le festival est très sérieux et que là on a quand même une conférence sur le, en gros, The Thanos Monster, quoi, on va y aller un petit peu plus fun parce que ça va être quand même difficile de jouer à l'universitaire avec des tronches de cabine, quoi, quand même, parce que ça va principalement être ça. Par contre, on va quand même essayer de regarder la manière dont on construit un monstre, puisque là, évidemment, on ne parle pas des monstres naturels, hein, c'est-à-dire pas les erreurs génétiques que l'on connaît ou le résultat d'accidents et autres. Là, on est dans la fiction. Alors, c'est vrai qu'on a souvent parlé du concept de bug-eyed monster, donc le BEM. On va s'apercevoir qu'en fait, il n'est pas si répandu que ça. C'est un symbole qui est fort, parce que bon, c'est vrai qu'on a tout de suite une image hybride, humain, animal, insecte, bon, quelque chose comme ça. Mais elle n'est pas si répandue que cela dans la création. Alors je vais passer tout de suite à la diapositive suivante avant que vous sortiez les tomates à cause de la musique. Vous aurez reconnu tout de même la bande-son. B.B. Baron pour La planète interdite. Bien. Donc, le BEM et le monstre dans la science-fiction. Alors celui-là est beau. Je l'aime beaucoup. Il n'est pas fait en papier crépon, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est quand même du vrai avec du caoutchouc, avec des choses solides, et un bonhomme en dessous. Vous aurez remarqué que, évidemment, les monstres, généralement, puisqu'ils représentent quand même une partie de notre inconscient et de notre cerveau reptilien, si on peut encore utiliser cette expression, ont tendance à être extrêmement violents, méchants pour rien, pour aucune raison précise, et évidemment, ils aiment les femmes. Elles, par contre, généralement, on va s'en apercevoir, ne les aiment pas du tout, et elles ont tendance immédiatement à se mettre en soprane, en mode soprane, ou voire haute contre femme, pour faire péter le vu-mètre dans les aigus. Donc ils viennent de l'espace, de la Terre, du passé. Le problème pour créer un monstre, c'est qu'il faut faire preuve d'imagination. Ce n'est pas si évident que ça. Alors, c'est-à-dire que le concept paraît évident, oui, pour créer il faut imaginer, mais en fait le problème c'est que la plupart du temps on arrive à imaginer que ce que l'on connaît déjà soi-même. C'est pour ça que la création d'extraterrestres, ou même d'ailleurs de civilisations, ou même à peu près tous les concepts de SF sont finalement hérités d'un certain nombre de notions que nous connaissons déjà, nous. Et alors donc la création graphique d'un monstre n'échappe pas à cette loi qui est bien, bien regrettable, parce que c'est vrai qu'on aimerait qu'il y ait une création absolument totalement originale, mais en fait le paradoxe c'est qu'on aurait probablement beaucoup de mal à la comprendre, de toute façon, même si on y arrivait. Alors, c'est ce que je disais, c'est une créature imaginaire, mais du coup on a, pour la créer, besoin absolument de référents. Alors les référents, on va les prendre où? Ben, finalement, dans ce que l'on connaît déjà, dans la culture, de ce qu'on connaît sur la Terre. Alors l'intérêt de la méthode, indépendamment du fait que ce soit quand même un petit peu plus facile, c'est que du coup, on va pouvoir quand même parler beaucoup plus facilement au public et donc pouvoir l'effrayer plus facilement ou le faire rigoler beaucoup plus facilement. Ce qui est souvent le cas pour le monstre classique des années 50, 60 et même parfois encore après. Alors, une des premières manières les plus simples de fabriquer un monstre, c'est de prendre un animal préexistant que l'on connaît et d'en faire une simple modification, la première étant l'échelle. C'est-à-dire que on a eu souvent dans les années 50 d'ailleurs tendance à travailler sur un agrandissement en fait d'animaux que l'on connaît bien mais que généralement que l'on n'aime pas beaucoup. Encore une fois,
Des monstres, on en a partout. On prend une loupe binoculaire, on regarde dans sa main, sur la table, sur votre chaise, et on s'aperçoit qu'il y a des trucs graphiquement très bizarres dont on n'aimerait vraiment pas qu'ils mesurent 2 mètres de long. Enfin, vous prenez n'importe quel acarien, n'importe quelle bestiole de ce type-là, et ça devient mais odieux dès qu'on prend une macrophotographie. Alors, évidemment, le sous-titre est quelque peu. Est-ce qu'il y a une possibilité d'enlever un petit peu de lumière pour. C'est la fenêtre. On va quand même de toute façon baisser la lumière, ça sera quand même mieux, s'il vous plaît. En tout cas, bon, le King Kong, c'est un exemple assez emblématique de modification d'échelle d'un animal que l'on connaît bien et qui en plus est proche de l'homme. Pas sur la vidéo proche, qui est normal. Quelques autres images. Alors ça, c'est évidemment le King Kong classique de 1933. Hein, vous savez qu'il y en a eu 2 autres versions. Ceci dit, celle-là reste quand même probablement la plus poétique par son imperfection, parce que c'est vrai que le travail de stop motion la fourrure qui gigote image après image du fait de la manipulation, la difficulté qu'il y a eu d'animer les expressions faciales, encore que pour l'époque c'est quand même remarquablement exécuté, font qu'on n'y croit pas et du coup on est obligé, nous spectateurs, de faire un effort pour rentrer dedans, faire un effort supplémentaire de suspension temporaire d'incrédulité, et du coup on rentre d'autant plus et c'est là que la magie opère. Alors après, on a aussi le carnaval de tout ce qui est association, trucs bizarres. Alors, Godzilla contre The Thing. Alors, The Thing, on ne le voit pas trop, mais on comprend bien que c'est vraiment le truc, le machin, le bidule, la chose. Voilà quelques petites images. The Thing, en fait, c'est ce qu'on appelle une grosse mythe. On a celle-là que j'aime beaucoup. De Deadly Mantis, la chose surgit des ténèbres, Nathan Juran. Alors, Nathan Juran, c'est quand même un réalisateur intéressant qui a notamment pour lequel Ray Harryhausen avait travaillé, et qui, à la manière de d'autres comme Jack Arnold par exemple, a assez excellé dans le film de monstres plutôt bien fait et un peu kitsch. Je vais vous passer un certain nombre de bandes annonces. Une des caractéristiques des génériques de ces films-là, c'est évidemment l'utilisation de superlatifs. Every device of military science, every defensive weapon, radar, plane, rocket, marshaled to destroy 1,000 tons of beastly fury. A monster leading a trail of carnage, spreading panic across the continent. Ah, le premier clic de femme. Vous aurez remarqué la grâce du vol de la bête. Deuxième cri. And then this most dangerous monster that ever lived.
balance the security of our city.
Voilà. Alors, généralement, évidemment, les bandes annonces sont complétées par des affiches. Quels que soient les pays d'exploitation et les différentes échelles d'affiches, on retrouve généralement les mêmes icônes du film qui sont déclinées. Alors, dans ce type de film, évidemment, comme il s'agit de promouvoir un certain aspect spectaculaire du monster, on retombe dans le même type de scène emblématique. Alors, il y a très souvent aussi le fameux couple qui est le plus directement concerné par l'invasion. Et puis évidemment, on a les photos de studio qui sont toujours aussi belles. Quelques images du film. J'aime bien celle-là, elle fonctionne plutôt bien. Vous aurez remarqué le travail de lumière sur les yeux, comme s'il y avait en fait une vie, et pour ça ils ont utilisé un truc graphique assez simple, c'est qu'ils ont mis une illumination qui permet de laisser donner l'idée qu'il y a, en fait, l'animal, le monstre est animé, c'est-à-dire qu'il a une vie propre, un souffle. Il y avait un certain nombre de petites affichettes comme ça aussi exposées à l'entrée des cinémas, avec dans le cadre de films noirs et blancs une colorisation, ce qui est donc le cas là, un petit peu de la publicité mensongère, puisque finalement le film étant en noir et blanc, on se faisait avoir. Mais bon, c'était encore une fois des vues assez emblématiques du récit proposé. Avec toujours évidemment le militaire qui va nous sauver, alors que paradoxalement, la plupart des grands monstres des années 50 des films américains, de la production américaine, sont assez régulièrement le fruit d'expériences ou de conséquences malheureuses soit de mauvaises expériences scientifiques, soit des décès nucléaires, etc. Il n'y a pas que là, évidemment, on sait très bien que le Japon, ne serait-ce qu'avec Godzilla, a fait de même. Il y a aussi, du côté des pays de l'Est, une production à peu près similaire. Oups, pardon, excusez-moi. Ça, c'est un petit pot pourri des plus craignos monsters parmi les craignos monsters. Hein. Allez, il faut que j'enlève le... Là-bas, je suis désolé, on se le refait un coup, juste 10 secondes. Alors, il y a une anecdote assez amusante concernant la création de Godzilla. Ça serait possible de monter la luminosité du vidéoprojecteur. Parce que c'est vrai que la plupart des scènes sont très souvent de nuit pour des raisons tant dramatiques que techniques. Mais du coup, on va se retrouver à... Parce que là, cette pauvre bête se fait par exemple exploser le dos. On ne voit pas sa souffrance et c'est dommage.
Celui-là est magnifique. Alors là, on est dans une autre idée du monstre, mais ça fait partie quand même de la sélection. On n'a pas tout à fait un changement de taille, on a un changement de degré de ridicule. Bon, celui-là, on le connaît bien. C'est notre copine qui aime danser. Alors, voilà une variante du changement d'échelle, c'est celle de l'être humain lui-même. Alors on a eu The Amazing Colossal Man, il y a aussi La Femme de 50 pieds, enfin ce sont des, encore une fois, des classiques des années 50. Évidemment, les antagonistes sont des victimes de la science. Voilà un film qui reprend le thème de Tarantula de Jack Arnold. Bon, vous aurez remarqué très souvent les monstres sont en arrière-plan parce que ça permet quand même de combiner facilement les deux images, celle de la prise de vue réelle, celle de la prise de vue rapprochée sur l'animal ou celui de la pellicule déjà réalisée avec une technique d'animation stop motion. Alors là on est dans un autre genre, là c'est donc toujours le pot pourri du best of du worst. Une des autres techniques utilisées, c'est tout simplement prendre un véritable animal, évidemment placer la caméra à la bonne hauteur avec un objectif macro qui permet une mise au point rapprochée, et quelquefois, si l'envie nous en prend, de rajouter quelques bouts de carton par-dessus ou de le maquiller pour lui changer le look, qu'on voit pas que c'est un gecko ordinaire. Encore le principe des deux niveaux d'image. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, et on s'en rend compte parce que finalement le nombre d'animaux préhistoriques est également assez important. Godzilla, dont on parlait un peu tout à l'heure, et qui est une création donc japonaise, répondait à un complexe
japonais. C'est assez intéressant de voir ça, de le prendre en considération. C'est que les Japonais ont un petit complexe sur quelque chose, ils y sont pour rien, mais en fait, chez eux, sur le ring, il n'y a pas vraiment de fossiles, de grands dinosaures. Alors qu'il y en a plein en Chine, et du coup, ils ont toujours été un petit peu envieux, voire jaloux de ce manque de statut de Japon millénaire qui a même connu le gros dinosaure. Donc du coup, pour satisfaire ce désir collectif, le modèle de Godzilla est absolument parfait, puisque finalement, c'est quoi, une sorte de T-Rex revu et corrigé graphiquement, mais qui obéit à peu près à des règles similaires en termes d'anatomie et de comportement, pour autant qu'on sache quel était le comportement d'un T-Rex, parce qu'en plus ça a beaucoup évolué depuis ces dernières années. Alors donc, je parlais de Tarantula tout à l'heure, de Jack Arnold. J'aurais remarqué le titre original ainsi que le titre français. Donc encore une fois, les superlatifs évidemment. On se retrouve avec le même système qui consiste à prendre une bête ordinaire et à l'agrandir. Il y a un certain nombre de cas de figure. Soit l'animal apparaît plutôt dans la campagne, soit il apparaît vraiment dans une ville, mais alors la ville très souvent est une petite ville, sauf quand il y a vraiment une attaque scénaristiquement plus importante, auquel cas elle se retrouve dans une ville emblématique du type New York ou Washington. Mais ces attaques ont lieu généralement dans une Amérique idéalisée qui est celle de la petite ville, pour que les spectateurs se sentent plus concernés par par le sort des personnages, et puis en fait pour montrer en pleine guerre froide que la menace extérieure, le monstre, donc le communiste, peut se faire jour dans n'importe quel contexte. Il faut se méfier de tout le monde, le voisin même de la ferme d'à côté peut se révéler en fait un ennemi de la société américaine. Dans tous ces films, il y a aussi une caractéristique assez importante qui est due autant à une volonté dramaturgique que tout simplement aussi à des problèmes techniques. C'est que très souvent, il faut qu'on attende assez longtemps pour voir le monstre arriver. C'est-à-dire qu'au début, on a une présentation du contexte au premier acte, ainsi que quelques faits bizarres qui interviennent, mais on n'a pas... Si on n'a pas lu le titre, on ne peut pas savoir exactement de quoi il s'agit. La bête va intervenir plus tard, et avec une confrontation finale au troisième acte, évidemment, parce que tout simplement, la réalisation des scènes n'était pas toujours très évidente, surtout qu'il y avait quand même un certain nombre de films qui étaient de la série B, donc à très faible budget, et qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir des scènes spectaculaires, avec notamment des compositings de différents niveau d'image trop compliqué. Donc, encore une fois, on retrouve l'aspect spectaculaire sur les affiches, la bête, le titre et évidemment le couple qui s'enfuit. Vous aurez remarqué que l'araignée est extrêmement intéressée par récupérer une jeune femme habillée en blanc, comme si elle en avait quelque chose à faire, à part évidemment la manger. Elle est très jolie, vous serez d'accord avec moi. Là encore une fois, le système des deux niveaux d'image. Cette image est très bien composée d'ailleurs, parce qu'en plus le point de fuite de la route mène directement au monstre, qui de plus est plutôt dense, sombre, sur un fond relativement clair. Donc on a vraiment le point le plus important qu'il ne faut pas rater à l'image, qui est mis en avant et désigné par la perspective et mis en avant par la différence de valeur.
Allez, encore un petit peu de bande-annonce merveilleuse. The Cosmic Monster. Attention derrière toi. Bon, c'est sa sœur, généralement c'est la nièce. Bien. Alors, l'autre possibilité que l'on a si on veut travailler sur l'échelle, ce n'est pas tant d'agrandir l'animal et donc pour en faire un monstre, plutôt que de modifier le point de vue. Alors évidemment, l'un des films les plus emblématiques à ce niveau, c'est The Incredible Shrinking Man, donc l'homme qui rétrécit, de Jack Arnold, grand spécialiste du film fantastique et de science-fiction des années 50. C'est un film qui vaut le coup d'être revu. Il y a quelques nanars parmi ceux que je vous présente ce soir, ça je vous l'accorde. Mais celui-là dégage une réelle poésie. Il est magnifique. Ce qui est tout à fait exact pour l'époque. Alors, c'est vrai que les effets spéciaux qui sont obligatoires, absolument indispensables pour ce type de film, sont particulièrement réussis pour The Incredible Shrinking Man si on remet dans le contexte de production. Bon, voilà, ça c'est une photo promotionnelle, comme celle-là. En fait, il y a deux types d'effets spéciaux qui ont été utilisés pour la réalisation du film. D'abord, la reconstruction de décors à l'échelle du personnage principal. Donc, évidemment, il n'y a pas d'incrustation. C'est quand il est assis comme un gamin dans un fauteuil, comme on a vu dans la bande-annonce, et ben, ouais, on a reconstruit un fauteuil, évidemment, à l'échelle. Le seul point, c'est parfois, quand on a, par exemple, la poursuite avec le chat de la maison, là, on a de l'incrustation. On va pas. C'est un vrai chat. On combine deux images, l'une du tournage de l'homme en train de courir et l'autre, évidemment, du chat en train de courir après quelque chose. On le sent, bien que, franchement, ce soit plutôt bien réalisé. On le sent parce que, évidemment, les caches contre caches, donc qui permettent d'incruster une image sur une autre, sont un petit peu approximatifs du fait de problèmes mécaniques, en fait, d'entraînement des films de griffe contre griffe qui, à l'époque, n'étaient pas très, très performants. Et puis, on le sent, en fait, pour un truc très bête. C'est qu'il n'y a pas d'ombre. Là, on le voit, il n'y a pas d'ombre. Le chat, il a droit à son ombre, et puis l'homme, pas du tout. Et du coup, on se retrouve dans la continuité avec des plans rapprochés sur l'homme qui est effrayé. Et là, il a une ombre. Et puis, pof, dès qu'on a un plan général avec le chat à côté, tac, plus d'ombre du tout. Ceci dit, ça aurait été vraiment compliqué à réaliser à ce moment-là. Et ça ne dérange pas tellement le plaisir qu'on a à voir ce film. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment faites-le, ça vaut le coup. C'est un classique qui conserve son intérêt aujourd'hui. Et là aussi, typiquement, on a une réincrustation, on le sent quand même un petit peu par rapport au problème d'étalonnage entre l'homme qui est quand même légèrement surexposé par rapport au reste du décor. Alors, si la taille ne suffit pas, on joue sur l'altération de traits physiques. Ça, c'est, on retombe dans ce cas dans la monstruosité au sens plus traditionnel du terme. Il suffit d'exagérer des caractéristiques qui sont naturelles. Alors, un des grands classiques, c'est modifier l'échelle du crâne. On a énormément de grosses bêtes monstrueuses qui ont tout à coup un crâne particulièrement développé. Ceci dit, alors comme je l'indique, ça ne signifie pas pour autant qu'il soit plus intelligent et ou qu'il soit plus, même tout simplement plus développé, y compris à un niveau moral qui n'est pas de besoin psychologique. Alors, pourquoi le crâne? Parce qu'on aurait pu prendre les doigts de pied, je sais pas. Tout simplement parce qu'en fait, là, on est en train, depuis tout à l'heure, en confrontant l'être humain et le monstre, finalement, de travailler sur une hiérarchisation des espèces. Et que nous, il faut admettre que, à part quelques obsédés sexuels, on pense que l'organe le plus important de notre anatomie, c'est notre cerveau. D'ailleurs, la preuve, on ne veut pas se faire couper la tête parce qu'on ne veut pas perdre son cerveau, vous êtes bien d'accord. Donc, on est très fiers de notre cerveau, on est absolument persuadé que le poids du cerveau influe sur l'intelligence, on sait aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait aussi simple. Quand on crée un monstre et qu'on l'affuble d'un crâne hyper développé, généralement, c'est pour lui donner une intelligence supérieure à la nôtre. Alors, on a ce phénomène typiquement dans The Island Earth, Les survivants de l'infini de Joseph Newman, un très beau film en tout cas, bien réalisé. Là, en fait, on est dans la catégorie des belles productions du milieu fin 50 avec La planète interdite et quelques autres films en Technicolor, à écran large et avec une conception graphique, une direction artistique importante. Par exemple, c'est un petit peu sombre toujours, mais avec ce type de décor. Donc, regardons la bande-annonce parce que c'est toujours aussi intéressant. Vous avez remarqué comme les étoiles filent. C'est embêtant quand les étoiles restent fixes parce qu'on a l'impression de voler le public en tournant. Jamais qu'une illustration, on a fait des petites taches avec de la peinture blanche et une brosse à dents comme quand on était gamin. Donc il faut que ça bouge, alors que pourtant les distances sont tellement énormes qu'évidemment il ne peut pas y avoir de relatif aussi important d'un astre à un autre. Ah bah c'est du Technicolor. Hein. La mise en scène est assez belle, la direction artistique, donc je vous dis vraiment intéressante. C'est un film vraiment très très honnête. il y a un réel travail dessus. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça fait vraiment partie des films à voir. Effectivement, bon, là, c'était des arguments commerciaux de l'époque. On a mis 2 ans et demi pour la production, la réalisation du film. Donc, on n'est clairement pas dans la série B. Alors, donc, on parlait du crâne. Bon, on a toujours évidemment notre couple en avant-plan et puis quelques scènes emblématiques derrière sur les affiches de l'époque, autant les affiches rectangulaires que les pantalons. Là, en format paysage, toujours notre couple ainsi que quelques scènes emblématiques ou éléments emblématiques du film. Alors, dans ce film, nous avons l'humanoïde au cerveau développé, qui est intelligent, qui est celui-là. Bon. Vous aurez remarqué la lumière travaillée. Bon, c'est évidemment de la photo de promotion, mais qui permet en fait de montrer, graphiquement très belle, de montrer le trait de caractère déterminé du personnage. Alors, le même de profil, avec d'autres copains qui ont pareil. Les hémisphères développés. Là, je ne sais pas, je crois qu'ils ne sont pas d'accord. J'aurais remarqué que sur ce type d'affichette, en fait, on a la même esthétique que si le film était en noir et blanc et colorié à la main, alors qu'une impression finalement couleur à partir du print aurait été tout à fait valable. Et puis alors par contre dans le même film on a le mutant au cerveau hyper développé aussi avec des super grosses pinces pour casser plus facilement les noix. Et évidemment lui il est moche. Bon, je dis pas que l'autre était particulièrement beau, je suis pas sûr qu'il soit hyper sexy, mais celui-là, bon, pour sortir dans le monde, c'est limite. Alors lui par contre il est particulièrement bête, donc comme quoi la taille ça fait pas toujours grand chose. Bon, bien sûr, les remarques en dessous de l'image ne sont pas d'origine. C'est moi. Je suis désolé. Je partirai après. Pas comment elles font pour crier comme ça, ça me fascine. Ah, voilà, le voilà, le voilà. Bon, allez. Voilà. Il est beau, hein. Bon, heureusement, il est mort aussi. Alors, on a aussi le même système qui intervient, par exemple, dans la très belle série The Outer Limits, que personnellement, je préfère à Twilight Zone. Elle a pris les mêmes systèmes, mais par contre, les conditions de production étaient nettement meilleures. Il y avait un budget supérieur et les scénarios étaient quand même nettement plus intéressants, plus développés. Donc là, on a un des grands classiques qui est le sixième doigt, The Sixth Finger, qui montre effectivement une mutation créée de toute pièce par un scientifique. Alors au départ, il y a effectivement un sixième doigt qui pousse, et d'ailleurs, il en profite pour apprendre l'intégralité de Bach en 2 heures, ce qui m'a rendu extrêmement jaloux. Il a évidemment un cerveau qui devient très développé, mais il devient en même temps extrêmement... dédaigneux au point de vouloir finalement enlever toutes les traces de l'espèce humaine sur la planète jusqu'à ce qu'il continue, il poursuive son évolution et qu'il s'aperçoive qu'en fait, ben non, le monde est amour et c'est beau, et que du coup il devienne bon, ce qui est le cas par exemple, on le voit dans cette photo, bon, un petit peu
Il atteint en très très peu de temps un statut de personne sage. Alors, de quelle espèce terrestre peut-on s'inspirer pour la création d'un monstre ? Alors, évidemment, en premier lieu, parce que c'est quand même de la bizarrerie à tous les étages, c'est les insectes. Les insectes. Alors, quelques photos d'insectes. Notez bien que, je n'ai pas pris les plus moches en plus, hein, ils sont quand même assez beaux. Le seul truc, c'est que ça va tant qu'ils font 3 cm de long max. Dès qu'on s'approche, ça ne va plus. Là, on a envie de lui conseiller d'aller voir un chirurgien esthétique. Ah, pardon. Mais en fait, oui, on a bien vu la connexion. On n'est pas très loin de l'insecte avec Alien, comme on le verra tout à l'heure. Alors, pourquoi l'insecte ? Bah parce qu'en fait, d'abord, il est quand même assez bourré de bizarreries anatomiques pour nous, selon nos critères d'humanoïdes bipèdes. Son visage, notamment, n'est pas organisé de la même façon. Les expressions faciales sont très limitées. Les yeux sont pas très, très expressifs. Il y a beaucoup de pattes hein, par rapport à nous, il faut quand même bien l'avouer. Ça saute, ça rampe. Enfin bref, on n'aime pas. On n'aime pas ces bêtes-là, en général. Hein. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas en être passionné. L'entomologie, c'est tout à fait respectable, mais de manière générale, on n'est pas très fan, de toute façon, ils sont généralement classés dans la catégorie des nuisibles. Donc, du coup, quand on réalise l'adaptation du Robert Heinlein avec Starship Trooper, c'est assez facile de rendre le monstre ennemi de la guerre. De le rendre avec des traits insectoïdes. En d'autres termes, donc, on ne les aime pas. Ah ben, eux non plus, en fait. Oh tiens, le revoilà. Et lui non plus ne nous aime pas. Donc voilà une petite maquette, par exemple, de l'insectoïde de Starship Trooper. Alors, c'est très intéressant parce que vous voyez, par exemple, là, c'est ce dont je parlais, on a quelques repères en moins. Savoir exactement où se trouve la tête, l'avant, l'arrière, c'est pas évident. On se retrouve avec une sorte de mécanique qui a l'air faite pour être tuée, pour tuer, mais on ne sait pas exactement comment l'appréhender dans sa globalité. Alors, pour des raisons autant économiques que techniques, c'est vrai que le cinéma a souvent été en retard. Alors, non seulement, évidemment, sur les thématiques de la science-fiction, ça, la littérature a toujours eu 30 à 40 années d'avance sur les thématiques, mais même par rapport à l'illustration, puisque finalement, s'amuser à peindre une couverture, c'est assez simple. Faire vivre, par contre, la même bête à l'écran de façon convaincante, surtout dans les années 50, 60, 70, ça allait beaucoup moins. Donc, de l'insecte sur de la couverture de pulp, on en a des tonnes. C'est un grand classique. Alors celle-là, d'ailleurs, d'Amazing Stories, est un classique du genre. Il y en a d'autres. Ça, c'est pour... en livre, l'illustration de Korak, le fils de Tarzan. Celle-là est extrêmement illisible, tout de même. Toujours Amazing Stories. De nouveau, voyez, très souvent, là, encore une fois, il s'agit de modifier un peu l'échelle et ça fait la blague. Bon, ensuite, une fois que l'on a l'insecte, on peut s'amuser à développer l'idée. Bon, par exemple, là, on a typiquement la bête insectoïde auquel on a rajouté d'abord une échelle et deux, évidemment, les dents. Généralement, quand un prédateur ou en tout cas un antagoniste a une très forte dentition, un code graphique suffisant et nécessaire pour savoir qu'il vaut mieux pas trop le rencontrer de trop près. Alors, à côté des insectes, ne pas oublier les araignées, évidemment. Allez, un petit diaporama d'araignées, elles sont belles. Hop, il n'y a pas d'arachnophile, phobe, ici. Bon, je n'ai pas pris les pires, ne vous inquiétez pas. Mais juste quand même pour qu'on voit la variété. Parce que ce sont les caractéristiques intrinsèques de la nature des araignées qui, en plus, diffèrent quand même d'une espèce à l'autre, beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer, qui sont réutilisés évidemment dans la création graphique du monstre. The Cosmic Monsters dont on avait vu la bande annonce tout à l'heure. Et puis alors, on peut du coup se retrouver à aller un petit peu au-delà du modèle. Là, ça devient beaucoup plus intéressant puisque bon voilà, on a des pattes plus pseudopodiques. Déjà, on en a plus qu'une araignée normale. Et puis surtout, là, on se retrouve avec juste une sphère et les pseudopodes qui s'en dégagent. Ce qui nous amène, du coup, au poulpe, hein, puisqu'on n'était pas très loin avec la dernière illustration. Le poulpe et autres bestioles à ventouse. Alors, c'est vrai que depuis Victor Hugo, et notamment les travailleurs de la mer, hein, le poulpe a toujours été considéré comme une bête plutôt malfaisante. C'est tout à fait faux, il est un animal plutôt assez intelligent, qui est plutôt fin et qui peut transmettre son savoir à la génération suivante, ce qui est quand même une des conditions pour évoluer. Mais par contre, c'est vrai qu'il obéit plastiquement à un certain nombre de critères qui empêchent les gens de le trouver sympathique, à la limite peut-être dans une salade, une fois qu'il est cuit, mais ça s'arrête là. Alors pourtant, la ventouse a été énormément développée dans le thème du monstre. Alors, encore une fois, quelques illustrations. Bon, là, on arrive aussi, j'en fais la parenthèse, mais on va en parler tout à l'heure, à la notion de collage. Ou alors, quelquefois, c'est un peu n'importe quoi, comme là, ou tout simplement, ça peut être du vrai poulpe, sauf qu'il est dans l'espace, mais à part les yeux qui sont un peu grands, certes, un peu, disons, cartoon, ou alors totalement ridicule, comme là, on a finalement un poulpe qui est à peu près cohérent avec le modèle réel qu'on connaît. Parlons un peu du végétal, parce que là, pour l'instant, on a vu les animaux. Or, le monstre peut être parfois végétal. Alors, évidemment, bon, on connaît par exemple les triphides, qui constituent une certaine forme de monstruosité végétale. Mais le végétal, de façon générale, a des qualités assez particulières. Alors, c'est un petit peu paradoxal parce que le végétal étant extrêmement différent de la vie organique animale sur un certain nombre de points, par exemple, bon, il ne bouge pas, il n'y a pas vraiment de bouche, sauf cas exceptionnel, etc. Il est vraiment très étranger. Sauf que notre problème, c'est que, en gros, on s'en moque. Des plantes. C'est assez symptomatique que dans l'épisode du déluge, on dit bien que Noé amène un couple d'animaux dans son bateau, mais alors il n'emmène pas les plantes. En fait, la plante est oubliée de la culture humaine. Alors, par contre, bon, ça nous permet quand même des petites des petites couvertures rigolardes, parce que finalement on prend justement les caractéristiques des plantes, par exemple le fait qu'elles ne puissent pas se déplacer, puis on leur rajoute des papates. Évidemment, on leur donne des... on les affuble d'intentions, mais vous avez vu que par exemple, la problématique de la plante, c'est que généralement, elle n'a pas de visage, donc elle n'a pas, il n'y a pas de possibilité de lui donner une personnalité. C'est pas très simple. Donc du coup, là, ils ont été obligés, clairement, de rajouter un visage. Alors, là, je fais un petit récapitulatif, en fait, de ce qui caractérise la plante. Le fait que vraiment ce soit très, très éloigné de nous et même des animaux. Évidemment qu'on ne la considère pas des masses, sauf si ça fait joli, qu'on a un potager ou que c'est bon à manger. Bon, ça s'arrête là. Mais le fait qu'elle soit immobile, ou en tout cas si elle bouge, ce soit très lentement, c'est vrai qu'elle pousse, là, il y en a d'autres qui vont suivre le soleil, il y en a quelques-unes dont les fleurs, par exemple, vont se fermer la nuit, se rouvrir le matin, etc. Il y a une vie, mais elle est à une autre échelle temporelle. Il y a du mouvement, je veux dire, mais il y a une autre échelle. Donc, on va pas tout. Généralement, on ne perd pas tellement notre temps à regarder un tournesol changer d'orientation pendant toute la journée. On trouve immédiatement beaucoup d'autres choses plus intéressantes à faire que ça. Donc, du coup, dans notre esprit, voilà, bon, ça sort de la terre et puis ça s'arrête là. Et comme je dis, si on vous demande en quoi vous êtes prêt à vous réincarner, le choix du cheval, du chat ou de la mouette passe largement avant celui du philodendron. Personne ne va penser à se réincarner en plante. Ça n'a même pas de sens, en fait, pour nous. Sauf que, justement, c'est pas mal. Parce que, puisqu'on essaye de chercher l'étranger, ce qui est vraiment, mais en dehors de notre logique organique, ça peut être intéressant pour vraiment dépayser complètement un spectateur. Alors bon, là encore une fois, on rajoute des papates, parce que sinon le problème, c'est qu'on n'en fait pas grand-chose de ces plantes au niveau fictionnel. Hein. Bon, c'est ça le problème, quoi. Et puis, il y a un autre point qui est assez important dans la plante, c'est que par son activité généralement chlorophyllienne, la plante se retrouve avec une couleur verte, la plupart du temps. Or, le vert, là aussi, est une couleur qui est très très différente de ce que nous, on a l'habitude de voir, dans le sens où nous, on n'a pas de couleur vert à part parfois avec la pupille, enfin pas la pupille, l'iris, pardon. Mais le vert à l'état pur n'existe pas chez l'homme. Donc du coup, le vert peut très facilement être utilisé comme symbole d'étrangeté, c'est-à-dire même d'opposition à l'homme. Alors, un des films qui utilise le plus cette idée, c'est Predator. On avait déjà eu cette utilisation de la plante comme entité maléfique avec certains films précédemment. Par exemple, je pense à The Thing, la chose d'un autre monde, mais la version de Christian Ibey est produite par Howard Hawks en 1951, où on a en fait un humanoïde végétal dont John Carpenter fera un remake en 82, qui est quand même du coup légèrement différent. Lui, il va abandonner l'approche plante. On avait eu évidemment de Body Snatchers qui arrivent avec des cosses végétales qui se transforment pour imiter, émuler, remplacer l'être humain, sauf qu'évidemment il n'y a pas d'empreinte digitale, donc ce ne sont plus les vraies personnes, elles ont été modifiées, elles n'ont plus d'individualité. Là, on est vraiment dans la grande peur de l'uniformité liée à l'idée du communisme aux États-Unis à l'époque. Avec Predator, là, on utilise vraiment le vert. Parce que bon, les deux premiers films dont j'ai parlé, enfin donc la première version de The Thing et l'invasion des professeurs de sépulture, donc de Body Snatchers, sont des films en noir et blanc. Et là, ils y sont allés vraiment, mais avec du vert claquant. Et c'est assez rare
mais ça fonctionne. Le vert est une couleur, encore une fois, assez spéciale. Non seulement on ne l'a pas, nous, mais en plus, par contre, elle a aussi une connotation en même temps négative. Eh oui, Schwarzy. C'est vrai que... alors oui, je vais quand même terminer sur Predator. Regardez cette image. Hein, on est bien d'accord. Paradoxalement, nous avons cette bête-là. Qu'est-ce qui nous choque? À part que, bon, encore une fois, un petit coup de chirurgie esthétique ne serait pas un luxe. Eh bien, c'est qu'en fait, la bouche est rouge, l'intérieur de la bouche. Alors que bon, c'est vrai que la peau est un peu transparente, donc du coup on voit finalement la couleur des tissus, en tout cas la couleur du fluide dans lequel les tissus baignent, et donc ça signifierait que son sang est rouge à notre ami prédateur. On voulait le revoir, tac, allez, pour le plaisir. Donc en fait il est juste vert quand il saigne. Ils ont fait des essais en fait de bouche verte à l'intérieur et ça fonctionnait pas. Donc du coup, ils sont retombés sur finalement le prédateur classique avec les grandes dents et la notion symbolique du rouge qui est celle de le symbole de la violence. Le vert, en même temps, c'est vrai que c'est l'émeraude que Satan perd dans sa chute, mais c'est en même temps la table d'émeraude des alchimistes. En fait, on est dans une couleur qui d'ailleurs a été très utilisée dans comme emblème de la magie dans Excalibur de John Boorman. On a vraiment des spots très très verts qui sont utilisés pendant tout le film en termes de direction artistique pour bien faire comprendre aux spectateurs que là, hop, on sort de la condition humaine pour rentrer dans une autre dimension plus mythologique. Le grand classique, évidemment, pour fabriquer un monstre, c'est de prendre des petits morceaux un peu partout et de fabriquer une chimère. Alors, c'est intéressant, la chimère, c'est parce qu'il y a vraiment une dimension imaginaire très forte, mais paradoxalement, ça ne fonctionne pas toujours. Et Borges l'a assez bien exprimé dans ce texte que je vous laisse lire, ou peut-être je vais quand même le lire pour ceux qui n'auraient pas leurs lunettes. Passons maintenant du jardin zoologique de la réalité au jardin zoologique des mythologies, dont la faune n'est pas de lion, mais de sphinx et de griffon et de centaure. Flaubert a rassemblé, dans les dernières pages de La Tentation, tous les monstres médiévaux et classiques, et il a essayé, nous disent ses commentateurs, d'en fabriquer. Le chiffre total n'est pas considérable, et ils sont très peu nombreux ceux qui peuvent agir sur l'imagination des gens. Celui qui parcourra notre manuel constatera que la zoologie des songes est plus pauvre que la zoologie de Dieu. En fait, ce que dit Borges dans un autre passage de son livre, c'est que quand on prend l'ensemble des espèces animales existantes et qu'on commence à jouer la combinatoire, les possibilités sont pas infinies, évidemment, puisqu'on parle d'un nombre fini d'animaux. Mais elles sont extrêmement nombreuses. Or, il y en a mais une très très large majorité qui ne fonctionnent pas et ne nous parlent pas. Elles ne nous intéressent même pas, voire elles nous font carrément rigoler. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que du coup, la licorne, le minotaure, le griffon, ça continue de nous parler. Mais par contre, les machins bizarres avec genre une tronche de rascasse et puis un corps écailleux qui n'a rien à voir et des membres antérieurs, ça le fait pas. La sirène nous parle, mais l'inverse a été assez rarement utilisé. Par exemple, sauf dans la fameuse toile de Magritte, justement. Mais on a rarement vu un poisson avec des jambes humaines. Bon. Alors le BEM, du coup, où il est dans tout ça, on l'a assez rarement. On l'a dans The Thing, justement la version de Carpenter de 82. Un bref instant, je passe cette image parce que là, on a assez régulièrement dans le film un aspect chimérique dans la construction du monstre, dans le sens où il s'approprie un certain nombre de caractéristiques de chacune de ses victimes. Et il fait du collage de petits morceaux en perpétuelle mutation. Ce qui fait
que, et c'est très intéressant d'un point de vue de la mise en scène, on ne sait jamais quelle forme il va prendre. Et après, l'autre point, c'est que comme il peut parfaitement imiter à la façon Body Snatchers un des habitants de la station antarctique, on ne sait même pas si on ne l'a pas en face des yeux sans le voir, sans l'identifier en tant qu'étranger. Donc voilà, le collage n'est pas évident. Par contre, alors du coup, ce que l'on fait pour éviter de se planter, soyons clairs, c'est que l'on rajoute quelques éléments, sans aller trop loin, qui vont permettre d'amener une certaine dimension exotique, de donner une sorte de bizarrerie à des modèles préexistants. C'est beaucoup plus simple et le résultat est souvent assez curieux parce qu'on identifie immédiatement l'élément qui a été ajouté et du coup on continue de voir le modèle d'origine sur lequel on a collé on a mis des ajouts qui fonctionnent de façon plus ou moins heureuse. Alors par exemple le Megato dans Star Trek, ça c'est très très joli, je vous laisse d'abord admirer l'image. Bon, c'est quoi ce truc? C'est le doudou du fils du producteur façon Yeti auquel on aurait collé une fausse dent de T-Rex en plastique sur le crâne. Ça s'arrête là, en gros. On en a d'autres. Alors, bon, le magnifique, grand, regretté Wallace Wood, évidemment, a fait quelques bestioles un peu bizarres. Donc là, on est dans la chenille, mais qui aurait en même temps des tentacules. Bon, celui-là n'est pas trop ridicule. Sauf que il s'en est moqué, parce que quand on connaît les vrais dessins de Wood, il est capable d'être dans un réalisme beaucoup plus important, et là, il s'est amusé à rire finalement de ce qu'il aime, ce qui est un petit peu tout ce que l'on fait quand on est un amateur de SF, et on sait que c'est pourri, mais on aime beaucoup, c'est un plaisir coupable, mais on continue quand même. Ah, le capitaine Gorn dans Star Trek. Alors lui aussi, il est pas mal. Regardez, regardez bien l'image. Alors c'est quoi ce truc? En fait, c'est un lézard qui se tient sur ses pattes antérieures, un peu comme un être humain qui aurait enfilé une combinaison de caoutchouc un peu grande pour lui. Ce n'est absolument pas le cas. Il s'agit d'un vrai lézard engagé par la production. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il faut aussi remarquer qu'il porte un pagne de bitnik taillé dans un véritable rideau de douche, accessoire de mode peu courant chez les reptiles, et un outil technologique à la ceinture. Regardez bien. Je n'invente rien. Bien. Donc, si ce charmant personnage dispose d'une technologie, c'est qu'il appartient à une espèce avancée, et conséquemment qu'il n'est pas si éloigné de l'être humain que cela, il est donc tout à fait logique qu'il soit humanoïde, puisque nous sommes les meilleurs. C'est QFD. Effectivement, imaginez celui-là à quatre pattes, ça le fait moins. En fait, là, on est typiquement dans le « on ne peut pas vraiment imaginer autre chose que ce que l'on connaît déjà », à savoir, bon, bah voilà, des gens qui se tiennent sur le patte arrière, on en connaît, tiens, nous, par exemple. Et puis, bon, on sait ce que c'est qu'un lézard, on sait ce que c'est qu'un pagne, on sait ce que c'est qu'un rideau de douche. Bon, voilà, bon, c'est vite fait, hein. Alors, évidemment, on a, bon, par exemple, Rick de Star Wars. Alors, celui-là est un petit peu plus... plus subtil quand même. On a quoi? On a un rhinocéros un peu reptilien avec des cornes en plus pour faire méchant et un nœud dans le nez pour faire punk no future. Évidemment, ça fait peur. Bon, alors, et les yeux pédonculés dans tout ça, parce que finalement, c'était le sujet de la conférence, et c'est vrai qu'on n'a pas vu vraiment beaucoup d'exemples, à part l'image de The Thing du Carpenter de 82. Il y a un peu dans les illustrations, il n'y a pas grand chose. En fait, comme je disais en ouverture, c'est un peu c'est un emblème, mais il n'a pas été vraiment développé autant qu'on pourrait l'imaginer. C'est, si je puis dire, le BEM est un serpent de mer, on en parle beaucoup, mais en fait, on le voit très peu. Par contre, on peut parler tout de même des yeux, pédonculés ou pas. Les yeux sont très importants. Je vous disais tout à l'heure que ce qui est intéressant avec les insectes, c'est qu'en fait, ils sont inexpressifs. Ils ont des yeux, soit à facettes, soit des machins tout ronds. Mais en tout cas, il n'y a pas généralement de mouvement de paupières. Il y a très peu, en plus, de sourcils. On n'a pas du tout les mêmes repères que pour un, pour un être humain ou même dans l'absolu un animal domestique, finalement, même un chat ou un chien va pouvoir quand même exprimer avec les yeux. L'oiseau, mettons le canari par exemple, moins, encore une fois, parce que la forme de l'œil ne peut pas beaucoup changer, qu'il n'y a pas de sourcils, que bon, pour savoir qu'un canari est content ou en colère, juste en regardant sa tête, ça ne va pas être facile, hein, on est d'accord. Donc, les yeux sont nécessaires à l'expressivité d'un personnage. Il suffit de considérer l'animation, puisque bon, je suis un historien de l'animation en même temps. Les yeux ont souvent été agrandis pour donner plus d'expressivité à des personnages qui sont des inventions totales, qui sont des créatures de l'imaginaire, et pour que l'on puisse y croire, et notamment pour que l'on puisse avoir de l'empathie, notamment dans le cadre du réalisme disneyien, comme on l'a appelé, il faut qu'ils soient capables de transmettre leurs émotions, et ça se fait principalement par les expressions faciales et surtout par les yeux, d'où le fait que les proportions des yeux soient modifiées par rapport à ce que à celles des animaux ou même tout simplement des êtres humains légèrement modifiés, mettons par exemple les nains de Blanche-Neige qui ont quand même des yeux disproportionnés. Cette idée esthétique d'ailleurs partira par la suite au Japon où elle sera encore davantage développée avec le style de manga où là on se retrouve avec des yeux qui peuvent occuper la moitié de la surface du visage. Alors donc les yeux, si on a des yeux, c'est qu'on ressent, c'est qu'on est vivant. Et le problème, le pire, finalement, le pire cas de figure quand on veut vraiment faire le monstre qui effraie, c'est ne pas mettre Dieu du tout. Alien, par exemple, est un monstre qui est dépourvu d'organes sensoriels de vue. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans Alien qui le rend vraiment un des monstres, enfin, qui fait de lui un des monstres les plus réussis, finalement, de la culture de la science-fiction? Alors c'est un certain nombre d'éléments, là aussi on a l'aspect chimérique qui intervient, tentacules, double mâchoire, squelettique, on a un peu de pattes très maigres qui ressemblent à la nôtre, mais qui semblent peut-être quand même plus à la limite celles de rongeurs, ou alors on a un crâne allongé comme... d'autres animaux. En fait, faisons un petit tour justement. Quels sont, on va voir quelles sont les inspirations du personnage. En attendant, une autre caractéristique importante, c'est l'évolution physique. On aime savoir de quoi on a peur. Il faut que l'objet de la peur soit relativement stable. Je parlais tout à l'heure du remake de The Thing par Carpenter, où je pense qu'une des grandes forces du film et qui le rend étouffant, à part le fait qu'on ait aussi un système de lieux clos au niveau dramatique, ce qui nous fait toujours flipper. Dès qu'on est dans un sous-marin, dans une maison dont on ne peut pas sortir, ou dans une zone, un laboratoire en Antarctique, ou un canot de sauvetage, enfin n'importe quoi, tout de suite on commence à avoir peur, parce qu'on est dans une prison, et que si on est en plus pris à laver avec le monstre, là on est sûr d'être cuit. C'est d'ailleurs le mécanisme du premier Alien, on est dans le Nostromo, on ne peut pas en sortir et on se retrouve finalement à être enfermé avec la bête. Mais la bête, si on ne peut pas lui donner un visage une fois pour toutes, l'identifier, on en aura encore plus peur. Alors, les différentes étapes, c'est évidemment l'œuf, puis le facehugger. Petite photo de tournage, Ridley Scott jeune, rigolo. Hein. Le double chestbuster, bon. Évidemment, il devient de plus en plus grand, mais c'est suggéré, c'est là d'où c'est assez malin. Et puis, bon, ben, on arrive à la taille adulte, très sympathique. Si vous voyez des yeux, vous me faites signe. Et puis, évidemment, il y a l'étape de la reine que l'on découvre dans les autres films de la franchise. Quelques petits morceaux choisis. C'est beau.
Alors ça, là aussi, on a l'arrivée du monstre, le vrai. Finalement, assez tardivement, et c'est très bien orchestré évidemment dans le montage du film, puisque finalement, c'est un film où on attend la plupart du temps qu'il se passe quelque chose. Et quand il se passe quelque chose, on ne voit pas grand-chose. Et puis évidemment, l'autre force du film, comme tout le monde l'a remarqué, c'est finalement qu'on ne voit que des portions du monstre. Et donc, on se retrouve à ne pas avoir jusqu'à un plan final de réelle appréciation de sa forme globale. Bien, comme vous connaissez bien le film, je vais arrêter là. Les sources d'inspiration graphique, donc. Alors, bon, évidemment, il y a le travail de Giger. En fait, Ridley Scott était tombé sur un ouvrage, sur le Necronomicon et une petite expo de Giger, et il était totalement obsédé par son travail. Bon, évidemment, il y a la plupart des artistes qui avaient travaillé sur Dune, dont... de Jodorowsky, dont Giger, mais il était vraiment obsédé. Et donc, c'est lui qui, évidemment, a été responsable de la grande... de la création. Mais néanmoins, de toute façon, Giger, en tant que créateur, doit bien s'inspirer de quelque chose. En l'occurrence, on trouve un certain nombre de bestioles sur Terre, telles que la limule, alors côté ventral, côté dorsal. C'est intéressant parce que le ventral, vraiment, on a l'impression que c'est le facehugger, et de l'autre, on a en fait le même type de carapace de plaque que l'on peut décerner à la surface de l'alien adulte. Et puis alors, oui, ça va vous surprendre, hein, la murène, mais en fait, là, c'est vrai que la murène a des yeux, elle ressemble, alors, par exemple, là, il est nul, pas du tout, enfin, si, il y a des espèces de machins là, puisque j'ai. Ah bah non, tiens. Bon, bah tant pis. C'est pas grave, on le voit, il y a quand même quelques petits yeux. Alors, la murène, il y en a des gros, mais c'est pas pour ça que je vous montre la murène. C'est, si ce n'est la superbe dentition, c'est justement en termes de dentition, c'est que la murène a une double mâchoire. Donc ça existe vraiment. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas se faire mordre par cette saloperie. Non seulement la salive est... C'est empoisonné, mais en plus, et puis c'est percé dents, donc il faut aller les chercher à la pince à épier ou dans le meilleur des cas. Mais en plus, il y a réellement une double mâchoire pour être sûr que la proie n'échappe pas. Après, il y a un certain nombre de bestioles secondaires, telles que les crustacés, ne serait-ce que pour l'aspect articulé, chitineux du corps dans sa globalité. Et oui, le serpent pénis, oui. Alors bon, vous allez dire que je suis un véritable obsédé. Ce n'est pas vrai, regardez. Hein, on est d'accord, hein. Bon, là, il a de la sauce tomate ou de la confiture de groseille, je vous l'accorde. Évidemment, il s'est déguisé, mais c'est le même, je vous assure. Et puis, évidemment, il y a le poulpe, bien obligé. Quand même, l'alien a quand même du tentacule. Encore une fois, on n'aime pas ça. Pourtant, c'est trop, très mignon, le poulpe. Bref, c'est encore une fois, le alien est un mélange, un pot pourri, une chimère. Mais bon, évidemment, la grande force du film, comme je le disais, c'est de ne jamais montrer que les éléments constitutifs de l'animal jusqu'à, vraiment, mais une image très brève, quand on le voit au fond du couloir, à la fin de la poursuite, enfin, de la fuite de Ripley, quand elle est la dernière survivante, ou presque, et qu'elle le voit accroupie, et là, d'ailleurs avec une lumière presque mystique dans des brumes, enfin, l'image est étonnamment belle, il y a une stupeur. Là, on se retrouve devant le film, exactement comme les personnages à la fin, à ne pas pouvoir réagir comme des lapins devant un phare, alors qu'on sait qu'on va mourir, mais parce qu'en fait, il y a une espèce, comme le dit très bien H, l'officier scientifique, c'est bien H, oui. C'est un organisme parfait, il est pur. Alors bon,
pour jouer aux cartes le dimanche, on trouve meilleur copain, mais il a une certaine... Il y a un aspect en fait édénique en lui. Alors, le dernier type de monstre dont je voulais parler dans la science-fiction, c'est le machin sans trop de forme. Alors, c'est quoi le machin sans trop de forme ? Ben, c'est... Alors ça, vous aurez remarqué le costume merveilleux de nos amis teutons qui sont sur la gauche. C'est évidemment le blob. Le blob, c'est quelque chose qui nous échappe parce qu'en fait, là, on a une forme globale, mais qui ne correspond pas à une organisation organique. C'est-à-dire que c'est comme si on avait une gigantesque cellule unique qui, du coup, est presque une sorte de défi à la biologie. Ça. On n'a pas envie de dire que c'est vivant, finalement. C'est juste un gros machin. Donc, alors, c'est embêtant. Alors, c'est très intéressant parce que comme on n'a pas de repères. Alors là, vous voyez, on est carrément encore au-delà de la problématique de la présence des yeux ou pas. Là, aller trouver un moyen de donner des sentiments à un blob à l'écran, vous allez commencer à vous amuser pour y trouver quelque chose. Mais c'est encore pire dans l'étrangeté, parce que finalement, je ne suis même pas sûr qu'on puisse considérer le blob même comme un animal. Vous voyez, parce qu'on est en dehors de la logique, notre appréciation de l'organique. On n'a plus de repères. Et c'est là où c'est intéressant, parce que les premiers exemples de blobs qui arrivent au cinéma sont encore une fois issus de la période de la guerre froide, et que cette absence totale de sentiments, d'expressivité, qu'il y a dans le blob fait évidemment écho à la manière dont l'Amérique considérait le communisme et le bloc de l'Est de manière générale. C'est une monstruosité. Dans la plupart des scénarios, elle est issue... alors, soit elle vient de l'espace, donc clairement c'est from outer space, c'est de l'alien et tout. Bon. Soit elle est issue d'un laboratoire, en fait c'est une mauvaise expérience, ça a foiré, et on retrouve un petit peu l'idée de... d'aime les monstres attaquent la ville ou Tarantula ou autre, c'est-à-dire un coup de radiation et hop, c'est parti mon kiki. Sauf que là, en fait, c'est pas forcément toujours aussi simple, c'est pas forcément toujours une radiation. Mais ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, l'individu n'est même pas tué. En fait, on n'en sait pas grand-chose. Dans quelques films, c'est montré qu'ils sont encore même vivants à l'intérieur, mais pas toujours. C'est juste que la victime disparaît. Elle est engloutie. C'est extrêmement effrayant, en fait, comme concept. Alors, le premier film où on a un début de blob, ça reste le Quatermass Experiment, qui date de 1955, de Val Guest, un très bon réalisateur anglais. On a là la défense, finalement, d'aller au-delà de ce que la divinité nous a donné, à savoir il s'agit, voilà, tu seras sur Terre et donc l'espace c'est pas pour toi. La preuve, si tu y vas, tu vas le payer, tu vas payer ton péché d'orgueil de vouloir aller plus loin que ce qui t'est autorisé. Bon, donc au début notre ami est un être humain tout ce qui est plus normal, et puis bah évidemment au bout d'un moment, ça devient ça. Bon, vous aurez remarqué quand même qu'il a franchement changé de forme. Alors, The Creeping Unknown, c'est le titre américain de The Quatermass Experiment. Ah, écrit bien elle, je l'aime.
What was the terrible secret he could not tell them? There's a whole new world out there, a wilderness, uncharted. He's been there. Come back. He's got the map. Unlock his mind for me, Briscoe, and find it. I know you can do it.
It isn't just
I know that brain intention you've been under, but to stop now when we're so close. Brian Donlevy, he dared an experiment that shocked the nation.
You've destroyed him like you've destroyed everything else you touch, Jack.
There's no room for personal feelings in science, Judith.
Ah, oh, well, we saw.
The experiment that created the creeping unknown.
Alors, nous avons, j'ai pris quelques images emblématiques du film. On continue de voir les yeux. Alors ça, c'est intéressant parce que là, par contre, il faut bien qu'on continue d'avoir en tête qu'il s'agit d'un être humain qui a été transformé, mais que quelque part, il est victime. Après tout, il n'a pas demandé à se transformer, hein. C'est pas Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il a juste fait un beau voyage, sauf que, contrairement à Ulysse, il est revenu avec une sale maladie. Mais, quelque part, il est totalement victime. Donc voilà la bête façon Bernard l'ermite qui aurait perdu sa coquille. Alors, ceci dit, bon, le blob, grosse forme sans éléments graphiques, c'est pas intéressant d'un point de vue purement cinématographique. Donc, c'est pour ça qu'on fait souvent ressortir des éléments qui auraient été engloutis par le monstre, parce que sinon, bah, c'est une grosse boule un peu gélatineuse, et ça n'a finalement... ça risque pas de faire très peur, et puis surtout, ça n'a pas beaucoup d'intérêt dramatique. À mettre en scène, c'est pas sympa, quoi, voilà. Donc la métamorphose, la remontée d'éléments est intéressante. Donc voilà, toujours The Unknown. On a The X-Men, le H de Inoshiro Honda. On a The Blob, mais alors donc la première version de 1958. Après le Quatermass Experiment, en fait, il y a eu toute une série de films qui ont été développés. On a donc alors celle de 1958. Avec, devinez qui ? Avec Steve McQueen.
You gotta come now. Wait a minute, Steve. Tell us what happened.
Well, I'm trying to tell you. Now, this thing had killed a guy.
But what was it? What happened to the kid?
Oui, c'est ça. Décris le blob.
It's kind of like a mass that keeps getting bigger and bigger.
Every one of you watching this screen, look out. Because soon, very soon, the most horrifying monster menace ever conceived will be oozing into this theater.
Bah oui, c'est quand même effrayant. Alors on a eu aussi même des versions italiennes du blob. Et puis alors j'aime beaucoup la photo de celle-là. Oui, c'est vrai que ça va lui faire peur, le crucifix, c'est sûr. On y croit, vas-y. Tiens, ah merde, ça y est, t'as déjà été pris. Bon, tant pis pour toi. Et beaucoup d'autres. Et nous arrivons donc à la fin de cette conférence. Il est 18h29, 30, pile poil. Hop, je vous remercie beaucoup.